Oh là là, nous sommes dimanche. Pourquoi sommes-nous ici? Eh bien, découvrons-le en nous rapportant à Lévitique 23. Lévitique 23, et nous débuterons au verset 15. Pourquoi sommes-nous ici? C'est une bonne question qui revient souvent lors des jours saints. Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Hier, c'était le 7e sabbat, et aujourd'hui, c'est le 50e jour. Mais qui compte? Nous, bien sûr. Verset 21, « Ce jour même, vous publierez la fête, et vous aurez une sainte convocation. » Une sainte convocation. Ce temps est donc mis à part et sanctifié, et nous nous réunissons dans ce but. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. 3 fois par année, nous nous réunissons. J'aimerais souligner que ces 3 périodes correspondent à ce que le Christ fit à la Pâque et au jour des pains sans levain, et ce qu'il fait aujourd'hui. Il fonde son Église, il vit en nous et nous transforme intérieurement. Nous parlerons de certaines de ces choses aujourd'hui, puis ce qu'il fera dans les jours saints de l'automne. Les 3 périodes de l'année correspondent aux activités du Christ sur la terre. Je suis sûr que vous connaissez tous l'Exode des Israélites, où Dieu infligea de terribles fléaux à l'Égypte de cette époque, puis il a mis les Israélites à part, et même un chien n'aboyait pas contre eux lorsqu'ils sont partis. Ils ont été mis à l'écart, très à l'écart. Il les a protégés et les a fait sortir miraculeusement par sa main puissante. Ils sont sortis d'Égypte pour se rendre au mont Sinaï, et ils ont conclu une alliance nationale conditionnelle basée sur leur obéissance au commandement de Dieu. C'est ce qu'ils ont fait au mont Sinaï le jour de la Pentecôte. Si un jour vous souhaitez effectuer une étude biblique intéressante, vous pouvez retracer ce récit et voir que cela s'est produit le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, Israël a reçu les commandements, les lois et les jugements. Et ce peuple, ces 12 tribus, est devenu une nation fonctionnelle sous le gouvernement du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme dirigeant. Plus tard, des siècles et des siècles plus tard, le jour de la Pentecôte, Dieu donna le Saint-Esprit, et ce faisant, il fondait l'Église de Dieu, qui est l'Israël de Dieu. Vous en faites partie. L'Israël spirituel a commencé ce jour-là. Acte 2 décrit les langues de feu qui sont descendues sur eux à ce moment-là. La comparaison entre les 2 Pentecôtes est intéressante. Au Sinaï, le sommet de la montagne était embrasé par le feu et la fumée, ce qui était terrifiant. Cela devait être très excitant pendant que l'Éternel tonnait ses commandements au peuple. Mais le jour de la Pentecôte, décrit dans Acte 2, des langues de feu sont descendues sur le peuple avec le bruit d'un vent impétueux. Une chose très différente, mais pourtant, d'une certaine manière, la même chose. Lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, c'était le premier exode, et nous le décrivons et nous en parlons parfois. Mais saviez-vous qu'il y aura un 2e exode? 2 exodes. L'événement du 2e exode est décrit en détail dans les prophéties. Il est mentionné à de nombreuses reprises. C'est un événement que nous devrions tous connaître et qui devrait nous encourager parce qu'il offre un grand espoir à un peuple banni, la diaspora israélite. Ils furent dispersés parmi les nations, mais Dieu fit la promesse inconditionnelle de les ramener. Les Israélites conclurent une alliance nationale avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ils la rompirent à plusieurs reprises. Alors, comme il le disait, ils furent expulsés du pays promis à Abraham et dispersés parmi les nations, parce qu'ils ne respectaient pas les conditions de l'alliance. Cependant, Dieu avait promis à Abraham qu'il le posséderait pour toujours. Nous allons examiner cela un peu plus en détail aujourd'hui. Passons donc en revue certaines choses concernant le second Exode et le lien important avec la Pentecôte. Nous verrons ce que sera ce second Exode, pourquoi il aura lieu, et quel en sera le résultat pour l'Israël physique. Nous comparerons ces points avec le premier Exode, car le résultat final du second Exode est très différent de celui du premier Exode. La raison en est, en grande partie, la signification de ce jour. La signification importante du jour de la Pentecôte est une raison majeure de cette différence. Nous allons examiner cette signification en détail et nous pencher sur certains aspects de ce jour. Le titre du sermon d'aujourd'hui est donc « Le second Exode et la Pentecôte ». Le second Exode et la Pentecôte, premier point. Nous allons passer en revue certains éléments du second Exode afin de les avoir à l'esprit lorsque nous aborderons d'autres sujets. Veuillez vous reporter, s'il vous plaît, à Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse 12, versets 1 à 3. Nous commencerons par examiner les promesses que Dieu fit à Abraham concernant Israël et la terre promise. Nous n'en passerons que quelques-unes en revue pour en avoir une vue d'ensemble. À travers les alliances que Dieu a conclues avec Abraham dans les Écritures, il y a une chose importante à retenir concernant les promesses. Certaines sont conditionnelles. Si tu fais ceci, alors je ferai cela. D'autres sont inconditionnelles. Parce que tu as fait ceci, alors je ferai cette autre chose. Les promesses conditionnelles et inconditionnelles sont très importantes. C'est une idée simple. Mais lorsque vous examinez ces promesses, il est important de les suivre. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, ici c'est une condition, une clause. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. D'accord? S'il ne le faisait pas, s'il avait dit, eh bien, je ne veux vraiment pas partir, je pense que je vais rester ici, eh bien, il n'aurait pas rempli la condition. Mais il l'a fait. Il a obéi la voix de l'Éternel. Verset 1. Dans le pays que je te montrerai. Et premièrement, je ferai de toi une grande nation. Voici sept promesses. Avez-vous déjà compté? Il y a sept promesses ici. Premièrement, je ferai de toi une grande nation. Deuxièmement, je te bénirai. Troisièmement, je rendrai ton nom grand. Quatrièmement, tu seras une source de bénédiction. Et il l'a été. Ces choses se sont accomplies. Cinquième, je bénirai ceux qui te béniront. Cela s'est produit. Sixièmement, je maudirai ceux qui te maudiront. Cela s'est aussi produit. Septièmement, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Chaque fois que nous voyons le chiffre 7, le septième d'une séquence, il s'agit généralement d'un millénaire. Et c'est ce que cela signifie. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les promesses iront à tout le monde, au monde entier, et pas seulement à ses descendants physiques. Reportons-nous à Deutéronome. Deutéronome chapitre 1. Et le verset 8, Deutéronome 1, verset 8. Israël a reçu les promesses en tant que nation en raison des promesses que Dieu fit à Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour cette raison qu'ils les reçurent. Dieu le dit à de multiples reprises dans la Bible, même si, étonnamment, les gens parfois l'oublient. L'Alliance nationale conclue avec Israël est un accomplissement partiel des promesses faites par Dieu à Abraham, Isaac et Jacob. Deutéronome 1, verset 8, « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à eux et à leur postérité après eux. » Cela se répète plusieurs fois. Reportons-nous à 1 roi 12. 1 roi 12, versets 20 et 21. 1 roi 12, versets 20 et 21. Nous ne ferons que survoler les principaux éléments qui se sont produits ici. Le royaume d'Israël, sous Jéroboam, s'est séparé du royaume de Juda, sous Roboam. Par la suite, le royaume de Juda et le royaume d'Israël sont devenus des royaumes distincts. Les 10 tribus, avec une partie des Lévites, contre Juda et Benjamin, avec les autres Lévites. Le verset 20. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Verset 21. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattent contre la maison d'Israël, afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Si vous parcourez les livres de 1 et 2 rois, vous verrez des guerres constantes entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Jéroboam entraîna Israël dans l'idolâtrie et, par la suite, Juda est également tombé dans une grave idolâtrie. Cependant, Juda a gardé le sabbat, alors que le royaume du nord, d'Israël, l'avait perdu, selon les œuvres de Jéroboam. Maintenant, regardons Daniel 9, versets 7, 8 et 11. Daniel 9, versets 7, 8 et 11. Verset 7. Je précise que cela s'est produit beaucoup plus tard, pendant la captivité de Juda. Le royaume d'Israël fut déporté en raison du péché. Israël n'était pas en captivité à Babylone. Daniel le mentionne. Certains disent, « Oh oui, mais ils se sont tous remis ensemble. » Non, ils ne se sont pas remis ensemble. Ils ne se sont pas remis ensemble. Ils étaient séparés, même pendant la captivité babylonienne. Il y a des preuves scripturales de cela. Il y en a même beaucoup. Regardons le verset 7. À toi, Seigneur, est la justice. C'est la prière de Daniel à Dieu. À toi, Seigneur, est la justice. Et à nous, la confusion de face en ce jour. Aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et tout Israël. À ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés. Nous parlons d'Israël. Verset 7. À cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Il les avait littéralement fait sortir du pays, parce qu'il avait dit qu'il le ferait. Cela faisait partie des promesses. Verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi. Tout Israël, et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Israël est donc entré dans la captivité assyrienne, nous le savons. Puis les Assyriens furent repoussés vers le nord par les Babyloniens, et Israël oublia le sabbat et leur identité, car le sabbat identifie le peuple de Dieu. Juda est allé en captivité à Babylone. Ils observaient le sabbat, ils en tenaient compte, heureusement pour nous. Ainsi, nous savons que le cycle de 7 jours fut suivi à travers toutes les époques. Ils ont donc conservé leur identité de peuple de Dieu. Permettez-moi d'abord, brièvement, d'aborder la question du sabbat à l'intention de nos nouveaux venus. Parfois, les gens appellent les commandements les 10 noms. Les 10 choses qu'il ne faut pas faire, et c'est vraiment incorrect. C'est faux, parce qu'il y a des commandements qui proscrivent, certes, comme tu ne voleras pas, ou tu ne commettras pas d'adultère, ou tu ne tueras pas. Ce sont des commandements qui proscrivent des choses qu'il est interdit de faire. Mais il y a aussi des commandements prescriptifs qui prescrivent des choses que vous devez faire, comme honore ton père et ta mère, c'est prescriptif. L'Éternel est votre Dieu et nous l'autre, c'est prescriptif. Et souvenez-vous du sabbat pour le sanctifier. C'est quelque chose que nous faisons. Nous sanctifions le jour du sabbat et bien sûr aussi les jours saints qui sont des sabbats annuels. Nous le faisons en cessant notre travail. Nous le faisons parce qu'en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, et qu'au 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi il a béni le jour du sabbat. C'est une bénédiction que nous avons. Et il l'a sanctifié comme un souvenir pour nous tous. Exode 31, verset 12 à 15. Exode 31, verset 12 à 15 nous dit que le sabbat est un signe qui identifie le peuple de Dieu. Continuons dans Deutéronome 4, s'il vous plaît, versets 25 et 26. Deutéronome 4, versets 25 et 26. Encore une fois, nous passons en revue certaines de ces idées importantes que nous voulons garder à l'esprit lorsque nous examinerons tout cela de manière plus approfondie. Verset 25. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'hériter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Lorsqu'il est question de destruction totale, comme c'est ici le cas, et dans bien d'autres endroits, il s'agit d'un peuple, d'une communauté. Ils ne seront pas tous tués à cause de cela, mais la nation et la communauté, elle, sera détruite, comme c'est souvent le cas dans la parole de Dieu. Reportons-nous à Ésaïe chapitre 11, verset 11. Ésaïe 11, verset 11. Si Israël péchait, Dieu disait qu'il le disperserait. Verset 11. Dans ce même temps, faisant référence à la captivité d'Israël, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Les îles de la mer font référence à toutes les autres côtes qui se trouvent là-bas, au loin. Ce sera donc le moment où il récupérera le peuple qu'il a dispersé. Ce sera un deuxième exode. Israël sera sauvé une seconde fois. Reportons-nous à Jérémie 31, versets 36 et 37. Jérémie 31, versets 36 et 37. Dieu tiendra ses promesses. Nous n'avons pas passé en revue toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham et qui sont inconditionnelles. C'est une toute autre étude biblique, mais nous savons qu'il a dit à Abraham, « Parce que tu as fait cela, je te bénirai. » Il l'a rendu inconditionnel au moment du sacrifice d'Isaac, quand Christ lui a demandé de sacrifier son fils, puis il l'a ensuite sauvé. Jérémie 31, verset 36. « Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. » Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Cela signifie qu'Israël continuera d'exister. Il ne sera pas détruit ou enlevé. Reprenons le même chapitre, Jérémie 31, versets 8 et 9. Jérémie 31, versets 8 et 9. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Cela fait référence aux différents continents. Verset 8. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. » Maintenant, regardons Jérémie 23, versets 7 et 8. Jérémie 23, versets 7 et 8, il y a de nombreuses écritures de ce type, mais nous n'en examinerons que quelques-unes. Jérémie 23, verset 7. « C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. » Il s'agit d'une référence directe à un second exode. Il mentionne le premier exode, puis il dit « Eh bien, cela va se reproduire. » Ces références sont nombreuses. Si quelques-uns souhaitent en voir une autre demi-douzaine, je les ai dans mes notes. Je ne vais pas toutes les citer ici, mais ce point est mentionné à de nombreuses reprises et parfois nous nous contentons seulement de les lire. Mais il se passe d'abord quelque chose d'important. Reportons-nous à Jérémie 30, verset 7. Jérémie 30, verset 7. Quelque chose qui s'appelle un temps d'angoisse pour Jacob. Verset 7 de Jérémie 30. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Mais il en sera délivré. Ainsi, une période très difficile s'annonce pour Jacob, pour la maison d'Israël. Une chose très difficile. Voyons un peu ce qu'il en est. Reportons-nous à Ésaïe chapitre 6, versets 10 à 11. Ésaïe 6, versets 10 et 11. Ce sont des événements, mes frères et sœurs, qui ne sont pas très loin. Peut-être pas si loin. Verset 10. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Verset 11. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Maintenant, reportons-nous à Amos, chapitre 5, versets 1 à 4. Amos 5, versets 1 à 4. Amos se trouve après Daniel, Osée et Joël. Amos, chapitre 5, verset 1. Amos 5, verset 1. Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée. Elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre. Nul ne la relève. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100, et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Verset 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. 10 sur 100 et 100 sur 1000. C'est seulement une dîme qui reviendra. Vous savez, dans Matthieu 24 et 25, le Christ nous dit l'importance de veiller. De veiller. Et selon vous, que fait le monde de demain? Avec notre revue, notre littérature, nos émissions, nous plaçons les événements mondiaux dans le contexte de la prophétie biblique, afin que nous puissions voir les choses telles qu'elles se développent dans le monde. Et le Christ nous dit de veiller. Que regardons-nous? Observons-nous les nuages? Regardons-nous l'herbe? Nous observons les événements mondiaux dans le contexte de la prophétie de Dieu pour le monde et pour Israël. Qu'est-ce que nous regardons et voyons qui se prépare? Nous regardons et nous pouvons relier ce qui se passe à la parole de Dieu. Nous avons l'obligation de l'annoncer. Nous n'irons pas dans Ézéchiel 33, mais Dieu nous dit que nous avons le devoir d'avertir, car ceux qui veillent et qui voient, s'ils voient, ils ont le devoir d'avertir. Sinon, le sang ou ce qui se passe est sur eux, s'ils ne veillent pas et s'ils n'avertissent pas le peuple. Il est important que nous le fassions, et c'est une fonction importante de l'Église d'aujourd'hui, parce que nous voyons et nous avons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Nous lisons également que la protection d'Israël réside dans sa repentance. Nous prêchons donc la repentance individuelle et nationale aux nations, à ce pays et à tous les peuples. Nous lançons un appel au pays et nous disons « Regardez, voyez-vous vos péchés ?» Nous le soulignons dans les émissions télévisées, dans nos articles. Pouvez-vous voir ce que vous faites? Pouvez-vous voir ce qui vous arrive? Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas entendre. C'est pourquoi nous disons parfois que nous le faisons pour servir de témoignage au monde, pour témoigner et les mettre en garde. Mais nous le disons, nous l'annonçons. Et certains le voient, certains entendent, et certains répondent à l'appel. Nous prêchons la repentance individuelle et nationale. Reportons-nous à Actes chapitre 2, versets 1 et 2. Actes 2, versets 1 et 2. Actes 2, verset 1, il s'agit d'une référence à Joël 2. Et il est intéressant de noter que ce passage se situe dans le contexte du jour de la Pentecôte. Il commence ainsi au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il décrit ensuite ce qui s'est passé ce jour-là. Quelques versets plus loin, les versets 20 et 21, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est une chose importante, et parfois nous devons nous en souvenir, afin que nous le rappelions à nos proches, à ceux qui ne croient pas, ou aux amis qui ne suivent tout simplement pas ce que nous faisons, ou qui ne croient pas aux choses que nous disons. Lorsque ces choses se produiront, ils diront « Wow! Ils enseignaient cela depuis le début. C'était dans leurs émissions depuis le début. Il y a maintenant la famine de la parole, mais ils se souviendront de ce qui a été dit. Que disait-il? Invoquez le nom du Seigneur. Si vous invoquez son nom et lui faites confiance, il vous assurera une certaine protection lorsque vous ferez cela. » Reportons-nous à Amos chapitre 9, versets 8 et 9. Amos 9, versets 8 et 9. Voici, le Seigneur, l'Éternel, a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel, car voici, je donnerai mes ordres, et je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. La raison en est qu'il a une promesse à accomplir envers Abraham. Les versets 1 à 6 de Zacharie 12 annoncent le retour de Juda. Nous ne le verrons pas, mais allons-y. Pourquoi ne pas y aller? Zacharie 12, versets 1 à 6. Il s'agit d'une prophétie qui s'est accomplie au cours de ma vie et que nous avons vue et que nous voyons se dérouler dans le monde en ce moment même. Zacharie 12, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël, ainsi par l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Une coupe d'étourdissement, c'est-à-dire une coupe de poison, elle sera toxique pour tout le monde. Verset 2. et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Cela reste à venir, mais c'est intéressant si vous regardez les choses maintenant. Il semble que la terre entière soit rassemblée contre Israël, contre Juda. Seules les nations israélites les soutiennent actuellement. Verset 4. « En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda, pas les rois, mais les chefs, diront à leur cœur, « Les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées, leur Dieu. » Verset 6. « En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. » C'est ce qui s'est passé au cours de la vie de ceux qui sont assis ici en ce moment. Pour résumer le premier point, Dieu a fait une nation conformément aux promesses faites à Abraham. Les dix tribus du nord d'Israël ont rompu l'alliance nationale conclue au Sinaï et ont été dispersés dans les nations. De même, Juda a été dispersé, mais il est revenu. Dieu a toujours tenu sa promesse inconditionnelle du droit d'aînesse à l'égard d'Éphraïm et de Manassé. Après la période de détresse de Jacob, le reste de la maison d'Israël sera rassemblé et ramené par Dieu. C'est la deuxième fois qu'Israël connaîtra un exode et retournera sur la terre que l'Éternel a promise inconditionnellement à Abraham, Isaac et Jacob. Mais cette fois-ci, leur séjour sur la terre et son issue seront différents de la dernière fois. Deuxième point, très bref. Passons maintenant rapidement en revue les raisons pour lesquelles Dieu accomplira le second exode. Reportons-nous à Deutéronome chapitre 7, versets 7 et 8. Deutéronome 7, versets 7 et 8. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Dieu a établi l'ancienne alliance conditionnelle en raison d'une promesse inconditionnelle faite à Abraham, Isaac et Jacob, leur père. Je voudrais juste mentionner que l'alliance concernait les commandements. Elle n'était pas les commandements en eux-mêmes. Nos amis du christianisme traditionnel disent parfois « l'alliance était les commandements ». C'était tout. Et quand l'ancienne alliance a pris fin, les commandements aussi. L'avez-vous déjà entendu? Eh bien, c'est faux. Bien qu'il se réfère à Deutéronome 4, verset 13. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, regardez le sermon DVE 13:45, Correctly Reading Deuteronomy 4:13, lire correctement Deutéronome 4, verset 13, disponible sur YouTube en anglais seulement. Maintenant, regardons Jérémie 32, versets 37 à 40. Jérémie 32, versets 37 à 40. Jérémie 32, versets 37 à 40. Dieu accomplira tout le bien qu'il a promis inconditionnellement à Abraham, Isaac et Jacob, même si l'alliance nationale avec Israël a pris fin avec la mort de l'Éternel, lorsqu'il est venu en tant que Jésus-Christ. Jérémie 32, verset 37. « Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu, et je les ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours. » pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Oh là là! Nous entrons dans le vif du plan, n'est-ce pas? Les promesses inconditionnelles prévoyaient qu'Israël aurait le pays de Canaan pour toujours. Il les a donc faites sans condition, et Dieu fera encore en sorte que cela se produise. Mais les circonstances seront très différentes. Elles devront être différentes. Elles ne peuvent pas être les mêmes que celles de l'ancien Israël. Je résume le point numéro 2. De nombreux chrétiens ne comprennent tout simplement pas que l'alliance du Mont Sinaï est un accomplissement partiel et conditionnel de l'alliance inconditionnelle que Dieu avait précédemment conclue avec Abraham. La Bible le dit explicitement. Dieu accomplira encore sa promesse inconditionnelle de donner la terre promise au reste d'Israël. Mais cela ne se produira pas à notre époque. Cela se produira dans un âge à venir où les choses seront différentes. Troisième point. Le point numéro 3 est très bref. Pourquoi l'échec d'Israël était-il inévitable? Il s'agit d'un mystère. C'est un mystère biblique. Reportons-nous à Romains 11. Romains 11, versets 25 à 33. Romains 11, versets 25 à 33. C'est ce que l'on appelle le mystère de l'aveuglement d'Israël. Combien d'entre vous pourraient l'expliquer? J'y ai fait référence à d'autres occasions. Pouvez-vous imaginer au club d'orateurs où l'on fait des discours impromptus? Le directeur dit, « Maintenant, M. Untel va faire un discours impromptu pour expliquer le mystère de la cécité d'Israël. » Vous seriez sur le point de partir, n'est-ce pas? Non! Bon, eh bien, voyons cela. En raison de l'échec d'Israël, leur mariage avec le Christ a pris fin, et le Christ peut se remarier, et les promesses sont ouvertes à toute l'humanité, à l'épouse ressuscitée du Christ. Romains 11, verset 25. « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. » Mysterion est le mot qui signifie quelque chose qui doit être révélé. Vous ne pouvez pas le découvrir vous-même. Verset 25. Afin que vous ne vous regardiez point comme sage, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit. La totalité des nations n'est pas encore entrée, mais cela ne saurait tarder. Selon qu'il est écrit, verset 26, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Verset 28. En ce qui concerne l'Évangile, ils, les Juifs, sont ennemis à cause de vous. Une pierre d'achoppement en parlant des Juifs. Ils étaient opposés à tout ce que faisait l'Église primitive. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés. Pourquoi? À cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, inconditionnels. Verset 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Nous avons obtenu miséricorde par leur désobéissance parce que cela a abouti au sacrifice du Christ et à la fin de l'ancienne alliance. Verset 31. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Le salut est maintenant ouvert à tous à cause de l'échec d'Israël. Verset 33. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Les mystères, les choses que nous ne pouvons pas découvrir en regardant et en raisonnant, Dieu doit nous les révéler. Résumons le point numéro 3 brièvement, le mystère de l'aveuglement d'Israël. En raison de l'échec d'Israël, l'alliance matrimoniale du Christ avec Israël a pris fin avec sa mort, rendant possible une nouvelle alliance avec l'Israël de Dieu, vous, qui s'étendra à tous les enfants d'Israël et au monde entier dans le royaume de Dieu. La promesse du Saint-Esprit est accessible à tous les peuples, et cela va de pair avec cette alliance. Quatrième point. Voici l'aboutissement final pour les enfants d'Israël. Reportons-nous à Ézéchiel 20, versets 34 à 38. Ézéchiel 20, versets 34 à 38. Ce passage peut paraître sévère, mais il est porteur d'un grand espoir. Nous avons lu précédemment que seul 1 sur 10, une dîme seulement, serait sauvé, serait ramené. Mais ceci montre ce qui se passe lorsque le reste revient. Ézéchiel 20, verset 34, « Lorsque le reste revient, je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. » Cela se passe dans le contexte du millénium, dans les derniers jours, verset 35. « Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face. » Verset 36. « Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, le second exode va se produire. Ainsi j'entrerai en jugement avec vous. » Dit le Seigneur l'Éternel, verset 37. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'Alliance. Ainsi, ceux qui passent sous la verge entrent dans les liens de la Nouvelle Alliance. Il se peut que seulement une dîme d'Israël soit acceptée. Verset 38. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, dans les régions au nord, là où ils seront. Mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Il est donc possible qu'un grand nombre de personnes survivent au temps d'angoisse de Jacob. Cela m'encourage. Mais seuls les fidèles, peut-être seulement ceux qui invoquent le nom du Seigneur, entreront. Il y a peut-être un espoir pour plus d'un dixième d'Israël d'entrer dans la terre promise la deuxième fois, mais les rebelles se verront refuser l'entrée. La dîme du Seigneur ira à la terre promise et à la nouvelle alliance avec Israël. Deutéronome 5, verset 29. Est un passage de l'Écriture à mémoriser. Vous pouvez vous y reporter si vous le souhaitez. C'est une déclaration émouvante de l'Éternel. C'est presque une explosion d'émotion de sa part quand vous le lisez. Deutéronome 5, verset 29. « Oh! S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements, tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre! Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Ne nous contentons pas seulement de lire cela. La Bible fait souvent référence au cœur, et nous l'utilisons même dans notre propre terminologie. Que voulons-nous dire lorsque nous affirmons que quelqu'un a un cœur pour faire ceci ou un cœur pour faire cela? Lorsque vous donnez quelque chose du fond du cœur, oh, il a fait ce cadeau du fond du cœur. « Oh, je donne cela de bon cœur, je parle du fond de mon cœur. » Vous parlez avec la volonté de faire quelque chose. Vous donnez un cadeau que vous voulez vraiment, vraiment donner à quelqu'un. Vous donnez de bon cœur. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un du fond du cœur, vous exprimez quelque chose qui est vraiment votre volonté. Vous dites quelque chose que vous ressentez profondément quand vous faites cela. Votre volonté est votre pouvoir de choisir. Et nous devons obéir à Dieu, oui, nous obéissons à Dieu. Et nous choisissons d'obéir. J'ai de nombreux exemples qui remontent à l'enfance de nos enfants. L'un de nos garçons, lorsqu'il était petit, ne mangeait rien de vert. Il ne mangeait pas ses légumes, en particulier les brocolis. Nous devions lui dire, « Tu dois manger tes légumes. Mange tes légumes maintenant. » Et grognement, il mangeait ses légumes. Aujourd'hui, il raffole des légumes. Et en passant, nous avons découvert que si vous mettez du beurre à l'ail dessus, ils mangeront n'importe quoi. Mais il aime ses légumes maintenant. C'est sa volonté de manger ses légumes. Vous savez, quand vous dites aux enfants « mange tes légumes », tous les enfants le font. Mais quand vous sortez le gâteau au chocolat, vous n'avez pas besoin de le rappeler. Il n'y a pas d'obéissance. Ils vont le manger immédiatement et ils en redemandent dès qu'ils en ont l'occasion. Pour ceux qui se convertissent, quand Dieu change notre cœur par son esprit, j'aime à dire que la loi de Dieu est comme le morceau de gâteau. Il nous change intérieurement pour que nous ayons envie de le faire. Et c'est ce dont il parle ici. « Oh, s'ils avaient un tel cœur en eux qu'ils veuillent observer mes lois, je n'aurais pas à les forcer à le faire, je n'aurais pas besoin de les menacer constamment avec une carotte et un bâton, je n'aurais pas besoin de leur sacrifice pour leur rappeler leur péché. Oh, s'ils avaient un tel cœur en eux avec la volonté d'obéir. » Reportons-nous à Jérémie 31, verset 31 à 34. Jérémie 31, verset 31 à 34. Cette prophétie est reprise dans Hébreux 10, versets 16 et 17. Mais lisons ici l'original, Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, séparée. Même dans le millénium, ils sont identifiables et séparés. Mais ils se réuniront, bien sûr, dans le pays. Verset 32. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Cela s'est terminé par sa mort, le jour où Dieu est mort. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, ils la comprendront, ils la connaîtront. Donc les commandements, les lois et les jugements, ils les connaîtront et ils en entendront parler. Ce sera dans leur esprit et sur leur carnet de notes? Non, sur leur cœur, écrit dans leur cœur. Verset 33, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Comment Dieu s'y prendra-t-il? Qu'est-ce qui sera différent à cette époque? Qu'est-ce qui sera différent? C'est que ces lois deviendront littéralement leur volonté. Le morceau de gâteau pour eux. La chose qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qui sera différent? Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel! » Car tous me connaîtront. « Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je leur pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ils le connaîtront, parce qu'ils connaîtront sa loi, et qu'elle sera écrite dans leur cœur. Ses caractéristiques seront en eux. Nous comprenons que cette promesse s'applique également à l'alliance que Dieu conclut avec Israël spirituel, qui est l'Israël de Dieu. Ces lois sont écrites dans notre cœur. C'est l'une des choses que nous nous souvenons en ce jour particulier. Dieu travaille avec chacun d'entre nous. Le Christ vit en nous. En ce jour, il donna son esprit, qui permet à sa loi d'être écrite dans nos cœurs. Ensuite, il vit en nous et nous transforme pour que nous voulions la mettre en pratique. Je veux être ici aujourd'hui. Je veux respecter le sabbat. Je veux faire ces choses. J'ai un long chemin à parcourir, comme nous tous. Mais il nous transforme intérieurement pour que sa loi soit écrite dans nos cœurs, sur le cœur des enfants de l'Israël de Dieu. Le résultat final? Le succès de cette nouvelle alliance sera possible grâce à deux choses. Et le jour saint de la Pentecôte est important à cet égard. Deux choses. Première chose, Joël chapitre 2, verset 28. Joël 2, verset 28, je vais simplement le lire. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Tout le monde l'aura. Le monde entier aura accès à l'Esprit de Dieu, et cela se produira lorsque le Christ viendra et que son royaume sera établi sur la terre. Dieu donna son Saint-Esprit à la Pentecôte en ce jour. Cet esprit transformateur n'est pas seulement pour nous. Nous nous en souvenons en ce jour et nous en parlons et nous passons en revue tous les détails des caractéristiques de l'Esprit. C'est très important, mais nous devons aussi nous rappeler que c'est quelque chose que Dieu fera. Il va le déverser sur le monde entier et il fera en sorte que d'autres puissent être transformés à leur tour. Reportons-nous à 2 Timothée chapitre 1 verset 7. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. L'amour et le souci des autres, agapé. Vous savez, nous avons l'amour filial, filéo, dans la Bible. Des choses que vous aimez personnellement. Mais l'amour divin, où nous disons Dieu est amour, s'exprime dans ce que nous faisons. Et Dieu exprime son amour intrinsèque en lui-même par ses actions. D'où ce mot agapé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a eu des sentiments chaleureux dans son cœur? Non, bien sûr que non. Il a fait quelque chose. Il a donné son Fils unique. Il a agi. Et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quelque chose que nous faisons. C'est ce que ce mot signifie. C'est un esprit d'amour. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ce que l'Esprit nous apporte. Nous voulons l'avoir. Nous voulons l'aviver. Qu'avez-vous de plus précieux que cette force de l'amour et de sagesse? Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Le Saint-Esprit convertit nos volontés. C'est un esprit transformateur. Et c'est nécessaire pour le monde entier. C'est essentiel. C'est ce qu'il dit doit se produire dans le royaume pour le monde entier. La nature transformatrice de l'esprit est nécessaire. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu devient notre volonté. Elle vient de Dieu par son esprit. Elle nous transforme pour que nous voulions faire sa volonté. Nous voulions respecter sa loi. Et dans la mesure où c'est ce que nous sommes, c'est dans cette mesure que nous pourrons gouverner dans son royaume. Pensez-y. Dans le royaume de Dieu, vous pourrez toujours faire ce que vous voulez. Mais ce que vous voudrez faire sera la volonté de Dieu. C'est pourquoi la conversion. Verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Reportons-nous à 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Ce n'est pas pour rien que la Pentecôte est appelée la fête des prémices. Le Christ est le premier des prémices, le tout premier. Il nous a ouvert la voie. Sa résurrection est la voie que nous suivons. Et vous êtes les prémices. Nous nous en souvenons en ce jour. L'Église a été formée en ce jour. Les prémices de Dieu ont grandi en ce jour. Nous nous en souvenons. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Lorsque vous sortirez et voyagerez plus tard dans l'année, vous verrez peut-être des champs qui ont été labourés et préparés. Certains contiendront du maïs, mais d'autres seront en train d'être préparés pour être ensemencés. Cet automne, vous verrez des petits bouts d'herbe pousser dans les grands champs. On dirait que ce n'est que de l'herbe qui pousse. Qu'est-ce qui pousse là-bas? Je me le demande. Vous savez ce que c'est? C'est du blé d'hiver. Il germe, enfonce ses racines et pousse tout au long de l'hiver. Mais il ne dépasse pas cette hauteur. Au printemps, que se passe-t-il? Dès qu'il fait chaud, il explose en grains qui peuvent être récoltés, généralement juste avant la Pentecôte. Ils en prenaient les prémices et les agitaient devant le Seigneur. Il en va de même aujourd'hui, cette pratique se poursuit. Ensuite, la grande moisson avait lieu. Et à l'automne, il y avait une deuxième moisson, la grande récolte. Regardons Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Cet esprit en nous nous permettra d'être ressuscités à l'immortalité. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, c'est son Esprit qui vous met à part et qui vous sanctifie. Vous êtes sanctifiés et saints. Dieu nous donne plusieurs choses à sanctifier. Nous sanctifions son nom, nous sanctifions son sabbat, et nous nous sanctifions nous-mêmes parce que son Esprit est en nous et qu'il nous met à part et nous sanctifie. Lorsque nous allons dans nos tombes avec cet Esprit en nous, c'est par cet Esprit que nous pourrons faire partie de ses prémices, de la prochaine vague de fruits, de la première grande récolte. Romains 8, verset 11. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, vous les prémices, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. C'est l'une des grandes choses que fait l'Esprit. Nous le gardons, nous le protégeons, nous nous maintenons saints. Nous ne voulons jamais que cet Esprit s'éloigne de nous. Le jour de la Pentecôte, des événements importants se sont produits. Dieu a donné à Israël les commandements à la Pentecôte, nous l'avons vu précédemment. L'ancienne alliance a été conclue à cette date, mais les Israélites n'avaient pas le Saint-Esprit de Dieu et ils ne voulaient pas obéir. C'était quelque chose qu'ils ne voulaient vraiment pas faire. Les 12 tribus d'Israël ont reçu les lois et sont devenues une nation opérationnelle ce jour-là. Elles ont conclu une alliance avec leur chef, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais n'ayant pas l'Esprit, elles n'ont pas respecté l'Alliance. Ce n'est que plus tard que Dieu a donné le Saint-Esprit à la Pentecôte, et nous l'avons lu dans Actes 2. C'est ainsi qu'a commencé l'Israël de Dieu, qui est l'Église de Dieu, et la nouvelle Alliance avec l'Israël spirituel. Cela nous permet de respecter les commandements parce que nous voulons les pratiquer. Peut-être pas tellement au début, mais ensuite il nous convertit et travaille avec nous pour que cela devienne quelque chose que nous voulons appliquer. Nous avons le cœur de le faire, cela devient notre volonté de le faire. Et l'Israël physique aura la loi dans son cœur grâce au Saint-Esprit. Tous connaîtront le Seigneur par ses commandements. C'est une très, très grande chose qui se produira. La deuxième chose, je vais la lire dans Apocalypse 20, versets 1 et 2. Je lis les choses qui vont permettre enfin à Israël de réussir dans le millénium. Ce que Dieu est en train de changer. La première chose, c'est son esprit qu'il va répandre sur toute chair. La deuxième chose qui permettra le succès de la nouvelle alliance avec l'Israël physique est que le mauvais esprit qui gouverne ce monde sera neutralisé pendant 1000 ans. Cela est illustré par le jour des expiations, mais lisons-le ici, Apocalypse 20, versets 1 et 2. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Deux choses. Satan lié et l'esprit répandu. Israël aura l'esprit de Dieu à sa disposition parce qu'il n'y aura plus de Satan pour le tenter. Les enfants d'Israël pourront enfin observer les commandements de Dieu du fond du cœur parce qu'ils le voudront. Je résume le point numéro 4. Je l'ai dit déjà et je le répète, frère, Dieu n'est pas ici pour réformer le royaume de Satan. Vous ne pouvez pas le réformer, pas plus que vous ne pouvez réformer Satan. Le royaume de Satan doit être détruit et remplacé. Et c'est ce que Jésus-Christ vient faire. Mais lorsqu'il le fera, l'Esprit de Dieu sera disponible pour toute l'humanité pendant le règne millénaire du Christ. Il sera possible pour tout Israël de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire dans le cadre de la première alliance, qu'ils échouèrent lamentablement à respecter. Alors pourquoi Dieu agit-il de la sorte? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait à l'inverse? Je veux dire, pourquoi l'a-t-il fait de cette façon? Eh bien, l'une des raisons est que d'abord vient le physique, puis le spirituel. Il nous montre un exemple, il nous enseigne la voie, puis il nous invite à participer à la réalité. Par exemple, il y a eu le premier Adam qui a péché et échoué, mais le second Adam n'a pas péché et n'a pas échoué. Reportons-nous à 1 Corinthiens 15, versets 45 et 46. 1 Corinthiens 15, versets 45 et 46. Dieu fait les choses de cette façon. Il commence par une chose et celle-ci contient de nombreuses images de ce qu'il va faire à l'avenir. Nous pouvons voir l'avenir en regardant sa création. Il nous le dit. Si nous avons les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. 1 Corinthiens 15, verset 45, c'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. L'Israël physique était le premier, comme le premier Adam. L'Église, l'Israël spirituel, et comme le second Adam, Christ, l'Église sera ressuscitée ayant la même forme que lui. Israël physique avait tout ce qu'il fallait sur le plan physique. L'Éternel a fourni la carotte et le bâton. Il savait qu'ils en auraient besoin. Je vous donnerai tous ces avantages, toutes ces bénédictions si vous faites ceci. Mais si vous ne le faites pas, alors je vous maudirai et toutes ces malédictions vous arriveront. Et ils ont dit, « Ouais, cool !» Et ils sont partis et ils firent ce qu'ils voulaient, n'est-ce pas? Dieu les guidait et c'était nécessaire en raison de leur nature charnelle et du monde dans lequel ils vivaient. Israël ne pouvait tout simplement pas le faire, mais Dieu a été extrêmement patient avec eux, prophète après prophète, siècle après siècle, roi après roi. Il a travaillé avec eux, mais en vain. Israël a rompu l'alliance à plusieurs reprises et lorsque son mari, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est venu sur terre en tant qu'homme, Israël l'a fait tuer, mettant ainsi fin à l'alliance conclue au Sinaï. Cela rendait possible une nouvelle alliance qui inclura tous les peuples du monde. Mais comme Dieu l'a promis à Abraham dans Genèse 12, vous vous souvenez? Tous les peuples de la terre seront bénis dans ce grand plan. Nous ne pouvons pas le faire sans l'Esprit de Dieu et sans que ses lois, qui sont son gouvernement, soient écrites dans nos cœurs, faisant de sa volonté la nôtre. L'une des caractéristiques marquantes de notre foi, de notre Église, est notre compréhension de son gouvernement et de son importance. Car, frères et sœurs, si nous ne l'aimons pas aujourd'hui, l'aimerons-nous toujours dans le royaume? Il nous donne son gouvernement, il nous enseigne que c'est son gouvernement. C'est pourquoi nous en parlons si souvent, c'est important, c'est important. Israël a échoué avec son gouvernement. Israël spirituel ne doit pas échouer. Il utilise toutes sortes de moyens pour nous enseigner et travailler avec nous. Lors du premier exode d'Égypte, qui était un type du péché, Israël en fait tomba dans le péché et fut expulsé de la terre promise, tout comme Adam et Ève furent expulsés du jardin. Après le second exode, l'Israël physique entrera dans une nouvelle ère et aura l'Esprit de Dieu à sa disposition pour écrire dans son cœur. Ils pourront alors rester dans le pays pour toujours. Cette fois, ce que Dieu a exprimé dans Deutéronome 5, verset 29, se réalisera enfin. C'est peut-être pour cela qu'il était si ému lorsqu'il a dit ceci, verset 29, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » C'est pourquoi il le disait de cette façon, je pense. Le Saint-Esprit de Dieu et la signification de la Pentecôte rendront cela possible.